Accent d'Europe, Catherine Roland.
I am the river lagging, the city of Belfast. I am the morn mountains.
Bonjour et bienvenue sur Accent. Eh bien, vous l'avez deviné, hein, nous partons en Irlande du Nord, où l'ombre inquiétante du Brexit plane sur des nouvelles élections législatives. Les électeurs retournent aux urnes demain, conséquence de la crise politique qui a conduit mi-janvier à l'implosion du gouvernement de coalition entre unionistes pro-britanniques et nationalistes du Sinn Féin. La campagne éclair qui se termine a accentué encore les divisions et les électeurs s'inquiètent d'une période d'incertitude ou d'instabilité à venir. Et c'est le reportage donc à Belfast de Julien Lagache.
Dans les rues de Belfast, les affiches de campagne ont un air de déjà-vu. Et pour cause, les différentes formations politiques ont ressorti les mêmes qu'il y a un an, faute de temps pour en réaliser de nouvelles. L'urgence est de remobiliser les électeurs qui menacent de bouder les urnes.
Il y a une certaine fatigue chez les gens qui se demandent à quoi bon voter. Alors on essaie de les remobiliser. On a frappé à des milliers et des milliers de portes. Moi-même, j'ai dû parcourir une centaine de kilomètres à pied.
Emmett McDonough Brown est conseiller municipal de Belfast pour l'Alliance, cinquième parti au niveau national. Il se présente confiant aux législatives car selon lui, il existe une volonté de rejeter les deux principales formations politiques. Le Sinn Féin nationaliste, jugé responsable de ce nouveau scrutin après avoir démissionné de l'exécutif, et son partenaire, le parti unioniste démocrate, accusé lui de mauvaise gestion dans une affaire de subvention aux énergies renouvelables.
Cette élection va également servir de référendum sur la mauvaise gestion du DUP. Les citoyens peuvent choisir des partis déterminés à travailler pour le bien commun. Mais s'ils votent comme ils ont toujours voté, ils n'auront que ce qu'ils avaient déjà. On sent un appétit de changement, mais l'ampleur de ce changement dépendra du taux de participation ce jeudi.
Seulement, l'enthousiasme n'est pas vraiment palpable au moment d'aborder ce nouveau scrutin. L'année dernière, 56% des électeurs s'étaient déplacés aux législatives et 62% pour le référendum sur le Brexit le mois suivant. Mais ces élections anticipées pourraient enregistrer un record d'abstention. Et d'après Viviane, habitante du nord de Belfast, cela favorise avant tout les vieux réflexes.
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un parti plus attirant qu'un autre, qui ne soit pas sectaire. Personne ne s'intéresse à l'économie ou à l'avenir des jeunes. Ils parlent seulement de l'union avec la Grande-Bretagne ou bien d'une Irlande réunifiée. Ma famille essaye de ne pas tomber dans le piège, mais si la grande majorité vote pour son camp, républicain ou unioniste, ça ne va pas changer grand-chose. On vote vraiment orange ou vert.
Orange comme les protestants, unionistes, vert pour désigner le camp républicain, catholique. De part et d'autre, on a surtout cherché à mobiliser son camp sur des sujets marqueurs. Le parti unioniste démocrate et le Sinn Féin, partenaires au pouvoir depuis 2007, ont clairement fait campagne l'un contre l'autre. Mais ils sont favoris et pourraient tous deux être réélus. Ce qui laisse planer un doute sur l'avenir des institutions, explique John Gary, professeur de sciences politiques à la Queen's University de Belfast.
Le Sinn Féin dit qu'il ne retournera pas dans un gouvernement de coalition avec le DUP. De ce fait, on pourrait se diriger vers une nouvelle élection ou le retour à l'administration directe par Westminster, autrement dit la reprise en main des affaires nord-irlandaises par Londres. Donc, on est face à un scrutin qui, contrairement à d'autres démocraties, pourrait ne pas mener à la formation d'un gouvernement, mais à une période d'incertitude, de négociation entre les partis. Et personne ne sait vraiment où cela peut mener.
Pour certains électeurs unionistes, le retour à l'administration directe de Londres est d'ailleurs une option envisageable, voire souhaitable, une façon de court-circuiter les nationalistes et de retrouver une forme de stabilité politique. En particulier à un moment crucial où les négociations pour la sortie de l'UE devraient débuter. L'Irlande du Nord a voté contre à 56%. C'est donc précisément maintenant que Belfast doit exister, affirment les plus petits partis. Claire Hanna est députée du SDLP, le Parti social-démocrate et travailliste, républicain, quatrième force politique de la région.
On se dirige sans doute vers une période nouvelle de discussion et c'est inquiétant, pas seulement parce qu'il y a une vacance de pouvoir, mais parce que nous n'avons plus de budget à partir du 1er avril et que nous n'avons personne pour faire entendre la voix de l'Irlande du Nord à Londres, à Dublin et à Bruxelles. Alors on bat le rappel auprès de ceux qui ont renoué avec les urnes pour le référendum de juin en leur disant d'aller voter aussi demain parce que le Brexit est le sujet majeur et que nous voulons limiter ces dégâts ici.
Sur la même ligne modérée et pro-européenne, le parti unioniste d'Ulster a tendu la main au SDLP pendant la campagne. Les deux formations étaient au pouvoir ensemble à la signature de l'accord de paix du Vendredi Saint en 1998. Mais leur bonne volonté affichée ne semble pas séduire les électeurs, plutôt tentés de renforcer les deux principales forces unionistes et nationalistes.
Chaque année, ils sont des dizaines de milliers à prendre le chemin de l'exil. Comme pour les autres pays des Balkans, la Serbie est en train de se vider, épuisée par d'interminables années de crise économique et par une absence totale de perspectives politiques. Alors pour les jeunes formés dans les écoles serbes, l'avenir se trouve désormais à l'étranger. Une saignée inquiétante pour le pays, et c'est le reportage de Laurent Gélin à Belgrade.
Qu'il est bien loin le temps où les chansons yougoslaves célébraient l'enthousiasme de la jeunesse à faire triompher le rêve autogestionnaire. Depuis la crise de 2008, qui a succédé aux guerres des années 90 et à une interminable transition économique, ceux qui ont la chance d'avoir fait des études cherchent à quitter la Serbie et les autres pays de la région. Yelena, 18 ans à peine, est encore au lycée à Belgrade, mais elle espère intégrer l'année prochaine une école de photographie à Dubaï.
Il y a de bonnes écoles là-bas, des meilleures qu'ici, ça c'est sûr. Je vois comment ma mère et mon père travaillent dur. Ils n'ont rien pu mettre de côté. Il n'y a pas que pour moi, il n'y a pas d'avenir. C'est dur pour tout le monde et peu ont la chance de partir.
Yelena pense rejoindre son frère et faire ensuite venir le reste de la famille. Pour elle, pas question de se réinstaller un jour dans son pays natal.
Mon frère est d'abord allé à Milan après avoir fini une école de mode à Belgrade. Il a fait des stages pendant environ 8 mois, mais il n'a pas trouvé de travail là-bas. Il se demandait « qu'est-ce que je vais faire ?» Il a repris son ancien boulot en Serbie, puis il a reçu une offre pour Dubaï. Et cela fait 4 ans qu'il est là-bas.
Les rêves des années 2000 se sont envolés en Serbie. Après le Brexit, l'intégration du pays à l'Union européenne est plus lointaine que jamais et les vieilles rengaines nationalistes sont de retour. Pour les générations qui ont grandi après la guerre, il est temps de prendre le chemin de l'exode. Anita Mitic est présidente de l'ONG Youth Initiative for Human Rights.
C'est une tendance qui augmente chaque année. L'année dernière, 15 000 jeunes ont quitté la Serbie, ce qui est un chiffre énorme. Et cet exode va se poursuivre car les gens ne voient aucun avenir, non seulement en Serbie, mais dans toute la région des Balkans. Ce qui est le plus douloureux, c'est que même les personnes éduquées, instruites, trouvent de moins en moins d'emplois. Par exemple, le couple qui animait depuis des années la Gay Pride de Belgrade est parti pour l'Allemagne.
Cette saignée migratoire est une mauvaise nouvelle de plus pour la démographie serbe, alors que les décès sont chaque année plus nombreux que les naissances et que le taux de fécondité ne dépasse pas 1,5 enfant par femme. D'après l'Institut des statistiques de Belgrade, le pays aurait ainsi perdu 38 000 personnes en 2015. Snežana Lakšević est démographe.
D'un point de vue statistique, deux raisons expliquent la chute de la démographie. La baisse constante de la natalité depuis le milieu du siècle dernier et la poursuite des départs vers l'étranger. Entre le recensement de 2002 et celui de 2011, près de 160 000 personnes sont parties. Ce sont des jeunes éduqués qui s'en vont, ceux qui devraient contribuer au développement économique du pays, travailler et avoir des enfants.
Si la population de la capitale Belgrade continue d'augmenter, tout comme celle des régions albanaises et bosniaques du sud du pays, l'Est, à la frontière avec la Bulgarie, et le Nord, à proximité de la Hongrie, sont en train de se vider. Et dans les montagnes, bien des villages sont déserts.
La Serbie compte à peu près 4700 villages. Ces deux dernières années, il n'y a eu aucune naissance dans près de 3000 d'entre eux. La population y est très âgée. Les départs vers l'étranger se font donc désormais depuis les grandes villes.
La baisse de la population serbe devrait se poursuivre et s'amplifier ces prochaines années, avec la disparition progressive des générations du baby boom nées après la Seconde Guerre mondiale. Sans que le gouvernement serbe ne semble être en mesure d'inverser la courbe démographique, mais il est vrai que chaque jeune qui part à l'étranger est aussi un chômeur mécontent de moins.
En Bosnie voisine, 20 ans après la fin de la guerre avec la Serbie, justement, les traumatismes sont toujours présents et les lieux de mémoire du siège de Sarajevo se multiplient, comme la Sniper Alley ou bien le tunnel creusé sous les positions serbes pour relier la ville à l'extérieur. Et puis il y a ce musée consacré à l'enfance pendant la guerre qui vient d'ouvrir ses portes. Le War Child Museum expose des objets envoyés par les Bosniens, aujourd'hui adultes, qui racontent leur enfance. Merci Anesic.
Les dessins d'une petite sœur fauchée par un obus, des conserves vides, un bonnet percé par une balle. Les enfants bosniens étaient confrontés pendant la guerre au bombardement, à la faim et à la mort. C'est ce que racontent une centaine d'objets dans ce musée de Sarajevo. Certains sont poignants, comme un ourson en peluche. Il appartenait à un petit garçon qui a été tué sous les yeux de sa mère et de sa sœur. C'est cette dernière qui a voulu qu'on se souvienne et qui a envoyé le jouet au musée. Ne jamais oublier et porter un message fort contre la guerre, c'est l'objectif du fondateur du musée. Jasminko Halilović sait de quoi il parle, il avait entre 4 et 8 ans pendant le siège de Sarajevo. Mais là, une de ses amies a donné au musée ses chaussons de danse de l'époque. À 8 ans, elle courait sous les bombes jusqu'au théâtre de Sarajevo pour prendre ses cours de danse classique. La vie continuait sous les bombes. Des objets exposés en témoignent, comme ce vélo ou ces jeux d'échecs. Le musée veut rendre hommage à la résilience des enfants, à leur créativité, à leur capacité d'apprentissage. Les enfants lisaient beaucoup pendant le siège de Sarajevo. Certains étaient même en avance sur les programmes scolaires, nous explique le fondateur. 20 ans après la fin de la guerre de Bosnie, des enfants continuent ailleurs de grandir sous les bombes. Justement, collecter des témoignages et des objets sur l'enfance pendant la guerre dans le monde entier, dans les prochaines années, et pas seulement dans les Balkans, c'est l'ambition du musée sarajevien. Il va commencer par organiser des expositions dans le monde entier. J'espère que cela nous aidera à comprendre qu'il faut laisser un monde plus beau derrière nous, réagit une habitante de Sarajevo.
Ce qui est bien quand t'es célibataire, c'est que tes potes te présentent vraiment des gens super. Ou pas. J'ai regardé quand même, tu te rends compte, on est à environ 15 millions de célibataires en France. Ça fait genre les Pays-Bas. T'imagines, c'est comme si dans tous les Pays-Bas, les gens restaient tout seuls célibataires, comme moi.
Si toi aussi, tu étais demandé mon géographique, sache que les Pays-Bas, c'est trop ici.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors on vient d'entendre un petit clin d'œil humoristique qui tombe à pic hein, aujourd'hui, puisque vous nous parlez d'une tendance générale en Europe, l'augmentation du nombre de célibataires chez les jeunes Européens. Et on commence d'abord par ce petit phénomène qui fait parler de lui depuis plusieurs années. Il s'agit de la sologamie. Alors après la polygamie, la monogamie, il s'agit d'une forme de mariage un peu particulière, hein, un mariage avec soi-même. Une tendance quelque peu étrange qui traduit en fait quelque chose de plus profond, Eve.
Oui, alors dit comme ça, ça peut paraître un peu saugrenu, hein, même faire sourire, mais la démarche semble sincère, en tout cas celle de cette jeune femme anglaise qui nous est racontée par le site Café Babel. Elle s'appelle Sophie Tanner, c'est une jeune romancière d'une trentaine d'années et elle en avait marre qu'on lui rabâche les oreilles avec son célibat. Elle a donc décidé de se marier avec elle-même. Évidemment, cet engagement n'est absolument pas reconnu, hein, ni par l'État, ni encore moins par les différentes instances religieuses. Mais les jeunes qui se lancent, souvent des femmes, organisent de véritables cérémonies à laquelle elles convient leur entourage et en profitent généralement pour faire une belle fête. Alors par contre, l'histoire ne dit pas si la jeune Anglaise en question a été couverte de cadeaux ou si elle est partie en voyage de noces après la cérémonie.
Tout cela, Eve, évidemment, pour dénoncer l'injonction à se marier, c'est ça ?
Oui, car ce mariage en solo, c'est surtout finalement un plaidoyer pour le célibat, une manière de se libérer d'une forme de patriarcat inhérent à l'institution traditionnelle du mariage. Historiquement, n'oublions pas que la jeune femme passait de l'autorité du père à celui du mari, un modèle daté, hein, dans lequel de nombreuses jeunes européennes ne se reconnaissent pas du tout aujourd'hui. Alors sans forcément renoncer au couple ou à l'amour, elle désire ainsi souligner qu'elles se suffisent à elles-mêmes, qu'elles sont indépendantes et épanouies, qu'elles n'ont pas besoin de se marier pour trouver leur place dans la société. Le célibat devient la conséquence des combats féministes et des acquis sociaux du XXe siècle, du droit de vote bien sûr, de l'avortement, des moyens de contraception, du recours au divorce, de l'accès à l'emploi et des revendications salariales. C'est d'ailleurs il y a un peu plus de 20 ans, en 1993 exactement, que la première femme sologame a célébré son mariage aux États-Unis.
De fait, il y a en Europe de plus en plus de célibataires, Eve, et ce phénomène ne concerne pas seulement les jeunes.
Non, mais les jeunes représentent quand même largement le plus gros contingent de personnes célibataires sur le continent. Et du côté de ceux qui choisissent quand même de se marier à quelqu'un d'autre cette fois-ci, d'après les dernières données publiées par Eurostat en 2016, les mariages en Europe ont baissé de moitié depuis 1965. Ce sont les Slovènes, les Bulgares, les Portugais, les Luxembourgeois et les Italiens qui rechignent le plus à s'engager officiellement. Alors que c'est en Lituanie, à Chypre, à Malte et en Albanie que l'on se passe le plus la bague au doigt.
Et pour ceux qui font le choix du mariage traditionnel, en Europe, on se marie moins et surtout, on se marie plus tard.
Alors, chez les hommes, cet âge varie désormais entre 29 et 34 ans. En une quinzaine d'années, l'âge moyen a augmenté de 4 ans. Et les mariés les plus jeunes sont les Polonais, les Lituaniens et les Roumains, à 29 ans donc. On peut dire qu'on ne se hâte pas du côté de ces messieurs au Danemark, en Espagne et en Italie, avec des jeunes époux affichant fièrement leurs 34 ans. Les Suédois, eux, attendent même leur 35e année.
Et du côté des femmes, Eve ?
Cette fois-ci, ce sont les Polonaises, les Roumaines et les Bulgares qui sont les plus précoces. Elles se marient dès leurs 26 ans. Les Suédoises et les Espagnoles attendent en moyenne respectivement jusqu'à 33 et 32 ans. Et enfin, les Irlandaises tiennent le haut du classement avec un premier mariage à environ 34 ans.
D'autant qu'être célibataire, il faut le souligner, hein, cela coûte très cher.
Oui, c'est en tout cas ce que souligne un article des Echo.fr. En Italie, le coût de la vie pour les 7,7 millions de célibataires est plus élevé de 64% à celui des couples, hein, de ceux qui vivent à deux. C'est en tout cas ce que révèle la Col di Reti, la Confédération des entrepreneurs agricoles italiens, après avoir comparé les dépenses moyennes d'une famille type en Italie. Cet écart de dépenses est principalement dû, dans un contexte de crise, à l'explosion du budget pour l'hébergement et l'alimentation, beaucoup moins rentable pour une personne seule. Sans compter que les jeunes Italiens qui travaillent sont les moins rémunérés au niveau européen, avec un salaire annuel d'environ 27 000 euros. Alors qui sait, peut-être qu'un jour, en Italie ou ailleurs, on en reviendra au mariage de raison, par nécessité économique. On verra bien.
Merci Evmino, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Avec ses quelques 12 millions d'habitants, Moscou est la ville la plus peuplée d'Europe. Elle est aussi considérée comme l'une des plus embouteillées du monde. Mais comment la capitale russe s'organise-t-elle l'hiver lorsque les chutes de neige sont abondantes, comme c'est le cas cette année ? Comment évite-t-elle la paralysie générale ? Étienne Bouche nous appelle de Moscou.
L'hiver à Moscou, on prend l'habitude de regarder au-dessus de sa tête. Car des hommes perchés sur les toits provoquent des petites avalanches urbaines. L'objectif, c'est d'empêcher l'accumulation de la neige, mais aussi la chute de stalactites. Pour éviter que la capitale ne soit enterrée sous la neige, des milliers d'agents municipaux sont mobilisés quotidiennement chaque hiver. Ils déblaient les trottoirs, brisent les plaques de verglas et partent à la reconquête des axes routiers. Et c'est un défi de taille, car la circulation à Moscou est dense, en particulier sur les différentes ceintures périphériques. Les déneigeuses agissent en groupe. Elles ratissent les voies et déposent sur leur passage des petits cristaux. On trouve les mêmes sur les trottoirs. Ils s'incrustent dans les semelles de chaussures et s'éparpillent inévitablement dans les entrées d'appartements. On croirait du gros sel, c'est en fait un agent chimique mélangé à des granulés de marbre. Pour garder les routes praticables, la technique a fait ses preuves. Mais elle ne plaît pas aux écologistes qui défendent un procédé plus traditionnel, l'utilisation du sable. La ville de Saint-Pétersbourg y est revenue l'année dernière. Les avocats de la méthode chimique, eux, estiment que le sable obstrue les canalisations et qu'il est plus difficile à nettoyer. Abandonner cette technique chimique, ce serait le chaos routier assuré. C'est ce qu'on peut lire dans le journal Komsomolskaya Pravda qui avance un autre argument. L'agent chimique fait fondre la neige et la glace. Or, à Moscou, la température peut repasser régulièrement au-dessus de zéro puis replonger. La neige fond, une couche de glace se reforme ensuite, les conditions idéales pour créer la pagaille sur la route.
Accent, c'est déjà fini. Jusqu'à demain. Merci de nous avoir suivis à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants, le journal